Tsahal a annoncé ce matin la mort de deux soldats au sud Liban. La 7e série de pourparlers entre le Liban et Israël à Rome s'est achevée selon les médias libanais. Un responsable étranger impliqué dans la tentative de mise en œuvre de la feuille de route du Conseil de la paix pour le désarmement de Gaza affirme que des progrès ont été enregistrés ces derniers jours. Et puis enfin, la semaine prochaine, mercredi, les Belges pourront observer la plus importante éclipse solaire de ces 27 dernières années. Tsahal a annoncé ce matin la mort de deux soldats au sud Liban. Le commandant de réserve Harel Birenstock, 34 ans, originaire de Nokdim, et l'adjudant Tamir Vaknin, 33 ans, originaire d'Elat. Ils sont tombés hier face au Hezbollah. L'événement s'est déroulé à l'intérieur de la zone jaune. L'armée ne sait pas à ce stade déterminer avec certitude à quel moment la charge explosive a été posée dans le bâtiment où sont entrés les combattants récemment ou s'il s'agit d'un dispositif plus ancien resté sur place. Quatre autres réserves Les réservistes de Tsahal ont par ailleurs été grièvement blessés lors de cette explosion. Les soldats touchés ont été évacués vers des hôpitaux. En réponse directe à cette attaque, l'armée israélienne a mené des frappes contre des cibles terroristes dans le secteur. À la suite de cet incident, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une réunion téléphonique avec le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d'état-major Eyal Zamir et plusieurs hauts responsables sécuritaires sur la poursuite de la riposte israélienne face au Hezbollah. 968 soldats de Tsahal sont tombés au combat sur les différents fronts depuis le 7 octobre 2023. Et puis, il y a peu, dans l'après-midi, des centaines de personnes ont assisté aux funérailles du major de réserve Harel Birenstock, 34 ans, commandant de compagnie de l'armée israélienne, qui a donc été tué hier dans l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le sud du Liban. « Mon fils aîné, magnifique garçon, je n'arrive pas à croire que cela nous soit arrivé, je ne le croirai jamais », a déclaré Yonat, la mère d'Harel Birenstock. « Tu as fait de moi une mère, puis une grand-mère, tu as fondé la plus belle famille qu'on puisse imaginer », a-t-elle déclaré. Elle a expliqué que, contrairement aux missions de combat précédentes, elle ne s'était pas particulièrement inquiétée pour sa sécurité cette fois-ci. « Cette fois, je me suis empêchée de m'inquiéter et la mort est venue sans même que je m'en rende compte », a-t-elle déclaré. « À présent, nous découvrons ce qu'est vraiment la douleur. Dieu du ciel, tiens-nous la main et apprends-nous à vivre avec cette douleur qui déchire l'âme », a-t-elle déclaré. La 7e série de pourparlers entre le Liban et Israël à Rome s'est achevée selon les médias libanais. Une réunion qui s'est déroulée selon trois volets parallèles, selon le journal saoudien Ashark News, juridique, politique et militaire. Le volet juridique a porté sur les prisonniers libanais détenus par Israël, selon Ashark. Le média a qualifié l'atmosphère autour de la question des prisonniers de positive. Les civils libanais détenus par Israël feront l'objet d'un traitement distinct de celui réservé aux membres du Hezbollah capturés par l'État hébreu. Toujours selon le reportage de ce média libanais, le volet politique a porté sur des propositions de zones pilotes où les forces armées libanaises prendraient le relais du contrôle exercé par les forces de défense israéliennes, tandis que le volet militaire visait à s'accorder sur des définitions communes de l'opération militaire. Et puis dans ce contexte, l'armée a affirmé aujourd'hui avoir frappé une série de sites du Hezbollah dans le sud du Liban au cours d'aujourd'hui, donc en réponse à l'attentat à la bombe qui a coûté la vie aux deux soldats et blessé quatre autres à d'Al-Zoun. Selon Tsahal, ces sites comprenaient des dépôts d'armes, des centres de commandement et d'autres infrastructures du groupe terroriste. Et puis, toujours selon un quotidien libanais, Nida Al-Watan, les États-Unis sont intervenus pour limiter la réponse israélienne et empêcher que la mort de ces deux soldats ne fasse dérailler les discussions. Le journal affirme que cette médiation a permis de sauver la poursuite des pourparlers. Un responsable libanais a toutefois averti que la situation restait fragile, accusant à la fois le Hezbollah de ne pas coopérer pleinement et Israël de vouloir frapper chaque menace identifiée. Toutes les options resteraient ouvertes tandis que Beyrouth tenterait de contenir l'escalade sous pression américaine. L'un des principaux points de désaccord porte sur le mécanisme chargé de contrôler l'application des futures ententes. Israël veut effectuer lui-même les vérifications sur le terrain, ce que refuse le Liban qui souhaite confier cette mission aux États-Unis. Washington ne voudrait toutefois pas en assumer la responsabilité. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran et Oman s'étaient mis d'accord sur un itinéraire pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz et qu'ils mettaient la dernière main aux dispositions relatives à la gestion conjointe de cette voie navigable. Selon certaines informations, cet accord, qui renouvellerait le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, permettrait à l'Iran de conserver le contrôle du trafic dans le détroit. Toutefois, des sources officielles s'adressant aux médias iraniens ont souligné que toute réouverture du détroit dépendrait du respect par les États-Unis de ce que Téhéran considère comme un engagement américain à mettre fin à son propre blocus naval des ports iraniens. La dernière vague d'affrontements entre les États-Unis et l'Iran, qui a débuté il y a environ un mois, s'est concentrée sur l'accès du détroit que l'Iran a bloqué et qui constituait avant la guerre une voie d'approvisionnement essentielle pour le pétrole et le gaz à l'échelle mondiale. Et puis dans ce contexte, Donald Trump, le président américain, a affirmé à privilégier la conclusion d'un accord avec l'Iran plutôt qu'une nouvelle confrontation militaire. « Je préfère un accord avec l'Iran car je ne veux pas tuer des gens », a déclaré le président américain, assurant que les États-Unis étaient prêts à frapper la République islamique avec une puissance jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, je cite. Selon lui, les dirigeants iraniens l'ont ensuite appelé pour lui demander de renoncer à cette attaque. Après l'échec du précédent accord, on parle désormais d'un nouvel accord provisoire de 60 jours sur le détroit, avec navigation sans taxes, voies séparées dans les eaux iraniennes et omanaises, et déminage sous 30 jours. Donald Trump affirme que les discussions progressent bien et que le blocus donne aux États-Unis le contrôle. Et toujours à propos du président américain, il se serait heurté à son ministre de la Défense la semaine dernière. Il aurait accusé Pete Hegseth d'avoir induit la Maison-Blanche en erreur quant à l'état des stocks de munitions américaines, alors qu'un retour à des opérations de combat de grande envergure en Iran semble se profiler. Cet échange qui a eu lieu à Camp David, selon le Washington Post, en marge d'une réunion du Conseil des ministres. Selon cet article qui cite deux personnes au fait de la discussion, Donald Trump a déclaré à Pete Hegseth qu'il pensait que le problème, à savoir une pénurie de missiles à longue portée et d'intercepteurs, avait été résolu. CNN a rapporté que l'armée américaine avait utilisé près de 80% de ses missiles intercepteurs destinés au système de défense antimissile balistique THAAD et environ 50% de ses missiles intercepteurs Patriot, ce qui rend les stocks de ses munitions, je cite, « dangereusement bas ». Un responsable étranger impliqué dans la tentative de mise en œuvre de la feuille de route du Conseil de la paix pour le désarmement de Gaza affirme que des progrès ont été enregistrés ces derniers jours, un Tsahal ayant fait preuve de retenue. Après des débuts difficiles, nous avons constaté quelques avancées dans la bonne direction, a déclaré ce responsable. Nous observons actuellement une retenue et un recul des opérations militaires, ce qui est essentiel pour que le processus puisse se mettre en place, a-t-il ajouté à propos de l'armée. Le premier ministre israélien a déclaré qu'Israël n'avait pas donné son accord à la proposition de désarmement du Hamas que le groupe terroriste avait accepté la semaine dernière. Tout en s'opposant à l'appel lancé par ce plan pour que les opérations de Tsahal à Gaza cessent, Benjamin Netanyahou n'a pas démenti les informations selon lesquelles Israël aurait accepté de renforcer ses règles d'engagement, exigeant désormais l'approbation du chef d'état-major de l'armée avant que toute frappe puisse être menée. Et puis un groupe de pays musulmans, parmi lesquels figurent les Émirats Arabes Unis, un allié proche, et la Turquie, un pays hostile, condamne les violations israéliennes dans la bande de Gaza et accuse Israël de compromettre le plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin au combat à Gaza. Le Qatar, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte affirment que le comportement d'Israël à Gaza constitue une violation manifeste des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit international et du plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza, et sape les efforts internationaux et régionaux visant à mettre en œuvre la deuxième phase du plan, en particulier à la suite de l'annonce par le président américain Donald Trump que les factions palestiniennes avaient accepté la feuille de route, y compris les dispositions relatives au contrôle des armes. Ils affirment que la politique d'Israël à Gaza menace de faire dérailler le processus politique, de relancer le cycle d'escalade et d'aggraver encore la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Je cite, Israël affirme qu'il ne commencera pas à retirer ses forces de Gaza tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés en matière de désarmement du Hamas. Direction le Canada maintenant, où un rapport publié par le bureau canadien de l'envoyé spécial chargé de la préservation de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme alerte sur l'ampleur du phénomène dans les universités du pays. Selon cette étude consacrée à l'expérience des étudiants sur les campus, 96% des étudiants juifs interrogés affirment avoir subi ou été témoins d'au moins un incident antisémite. Le rapport s'accompagne d'une série de recommandations et met notamment en cause des comportements attribués non seulement à d'autres étudiants, mais aussi à des professeurs et à des membres de l'administration universitaire. Dans une déclaration commune, le Centre pour Israël et les Affaires Juives, le Bnei Brit Canada et le Centre Simon Wiesenthal ont estimé que l'antisémitisme s'était désormais enraciné dans plusieurs institutions publiques canadiennes, y compris les universités. Les trois organisations ont replacé ces résultats de cette étude dans un contexte plus large, marqué par des attaques contre des synagogues, des écoles juives et des commerces appartenant à des les juifs ainsi que par la forte proportion de crimes haineux visant la communauté juive au Canada. Et enfin, les Belges vont pouvoir observer la semaine prochaine la plus importante éclipse solaire de ces 20 dernières années. Le 12 août 2026, mercredi prochain donc, le soleil a rendez-vous avec la lune, le temps d'une éclipse solaire totale. Selon l'Observatoire Royal de Belgique, la lune ne masquera environ 89% de la surface du soleil à Bruxelles. 27 ans que la Belgique n'avait plus observé un tel spectacle, la dernière éclipse totale remontant au 11 août 1999. Et notez bien la date, puisque ce phénomène extrêmement rare ne se reproduira pas avant le 25 mai 2142, soit dans 116 ans.